Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, en soit-il. Nous continuons avec notre étude sur les rois, les premiers rois d'Israël. Nous avons parlé de Saül, de David, et le troisième n'est autre que Salomon. Nous suivons en cela, je vous le rappelle, les lectures de l'office des matines, l'office de nuit, qui est traduit notamment dans l'antienne des Vêpres le samedi soir. Hier soir, nous chantions que le prêtre Sadoc et le prophète Nathan ont consacré roi Salomon. Avec Saül, nous avons appris la gravité de la désobéissance. Et non seulement de la désobéissance, mais le problème du manque de contrition, de réparation et d'acceptation des peines que Dieu a envoyées à Saül, qui le conduit à son triste sort, à ce suicide, à la défaite contre les Philistins. David n'est pas non plus un roi parfait, comme nous l'avons vu, mais David nous apprend l'humilité, nous apprend la patience et l'amour des ennemis, nous apprend aussi la vraie pénitence, parce que même s'il a péché gravement dans sa vie, il a été à chaque fois un exemple de vraie pénitence, et David est considéré donc même par l'Église comme un saint. Vers l'an 970, donc, David, avant notre Seigneur, bien évidemment, David meurt et commence le règne de Salomon. Salomon va offrir des sacrifices. À l'époque, c'était encore un peu flou, on offrait des sacrifices un petit peu partout, pas uniquement devant l'Arche d'Alliance, comme théoriquement c'était prévu. Hein, on a vu que le roi Saül prétendait offrir un sacrifice. Le problème, c'était pas nécessairement que ce soit lui qui l'offre, puisque c'était encore flou à cette époque, mais le problème était de ne pas avoir obéi à l'ordre de Nathan. Et donc, le roi Salomon va offrir un sacrifice à Gabaon, et la nuit, le Seigneur va lui apparaître en songe et lui dire ceci. « Demandez-moi ce que vous voulez que je vous donne. » Et Salomon répondit, « Vous avez usé, Seigneur, d'une grande miséricorde envers David, mon père, votre serviteur, selon qu'il a marché devant vous dans la vérité et dans la justice, et que son cœur a été droit à vos yeux. Vous lui avez conservé cette grande miséricorde et vous lui avez donné un fils qui est assis sur son trône comme il paraît aujourd'hui. » Maintenant donc, Seigneur Dieu, vous m'avez fait régner, moi, votre serviteur, à la place de David, mon père, mais je ne suis encore qu'un jeune enfant qui ne sait de quelle manière il doit se conduire. Et votre serviteur se trouve au milieu du peuple que vous avez choisi, d'un peuple infini qui est innombrable à cause de sa multitude. Donnez donc à votre serviteur un cœur docile, afin qu'il puisse juger votre peuple et discerner entre le bien et le mal. Car qui pourra rendre la justice à votre peuple, à ce peuple si nombreux ? Le Seigneur donc apparaît à Salomon et lui dit « Demande-moi tout ce que tu veux ». Est-ce que Salomon demande la gloire, la richesse ? Non, il demande un cœur docile. Docile, bien entendu, à Dieu. Il demande un cœur qui puisse juger le peuple. Donc il demande finalement les qualités d'un bon gouvernant. Il demande la sagesse du gouvernement. Cette sagesse lui est bien entendu donnée. Les exemples, ils sont connus. On connaît l'exemple qui est rapporté par l'Église, notamment pendant le carême, ces fameuses deux femmes de mauvaise vie qui chacune avait eu un bébé et qui vivent ensemble et l'un des bébés meurt. Celle dont le bébé meurt va s'emparer de l'autre, échanger les bébés, et évidemment au réveil, celle qui n'avait rien fait, évidemment se trouve avec un bébé qui est mort et pense qu'il a quelque chose de bizarre. On s'adresse donc au roi, et le roi va dire, eh bien, couper le bébé en deux. Il ne l'aurait pas fait, rassurez-vous. C'était un acte de sagesse justement inspiré pour révéler la véritable mère du bébé qui est encore vivant. La véritable mère, elle est prête à donner son enfant à pour qu'il reste vivant. Et elle dit donc, écoutez, donnez-lui, ce n'est pas grave, pourvu qu'il ne soit pas tué. Et donc Salomon, bien sûr, il va donner l'enfant à cette femme en punissant l'autre qui, elle, était une menteuse. Donc, jugement de Salomon, sagesse qui fait venir la reine de Saba et qui lui pose mille questions pour éprouver cette sagesse. C'est un règne qui commence avec cette gloire et cette sagesse. La première leçon pour nous est donc que ce qu'il y a de plus estimable pour nous, ce que nous devons demander en premier lieu dans nos prières, ce ne sont pas les richesses, ce n'est pas la santé, ce n'est pas la gloire, ce ne sont pas les biens extérieurs, les biens du corps, c'est évidemment la sagesse, et la sagesse ici selon notre état de vie, hein, puisque si on prend l'exemple de Salomon, c'est vraiment par rapport à son état de roi qu'il demande d'être capable de bien juger le peuple. Donc c'est important de demander les grâces par rapport à notre devoir d'état particulier. Le roi Salomon va régner avec gloire, comme nous l'avons vu la semaine dernière, c'est à lui que va revenir de construire le temple de Jérusalem. Donc on en a fini avec ces hauts lieux qu'on appelait les hauts lieux, donc sur lesquels on sacrifiait un peu de façon anarchique, on va dire, avec de bonnes intentions certes, mais ce n'était pas conforme à la volonté de Dieu ni à la loi de Moïse, puisque les sacrifices sont réservés aux prêtres et sont réservés donc à ce lieu où le Seigneur est présent par l'Arche d'Alliance. Par conséquent, le roi Salomon construit le temple qui est achevé au bout de 7 ans. Dans la Sainte Écriture, vous avez toute la description, les mensurations du temple, etc., les mesures, la richesse, les bois qui sont utilisés, les pierres, et on voit donc un tel chantier, 7 ans, c'est quand même... C'est assez rapide, hein. Tout le monde s'y est mis. On avait à disposition les matériaux, certes, mais c'était quand même un chantier très important. Ensuite, le roi va construire son palais, et c'est vraiment l'apogée du royaume d'Israël. Le temple est dédicacé solennellement à Dieu. Et Salomon bénit le peuple et prie pour toutes les nations. Alors le Seigneur va lui apparaître une deuxième fois. Mais cette fois-ci, on a un avertissement. Le Seigneur lui dit « J'ai exaucé votre prière et la supplication que vous m'avez adressée. J'ai sanctifié cette maison que vous avez bâtie pour y mettre mon nom à jamais, et mes yeux et mon cœur y seront toujours. » Et vous, si vous marchez devant moi comme a marché votre Père dans la simplicité du cœur et la droiture, si vous faites tout ce que je vous ai commandé et si vous gardez mes lois et mes commandements, j'établirai à jamais votre trône et votre règne sur Israël, selon que je l'ai promis à David votre père en disant, il y aura toujours de votre race quelque héritier assis sur le trône d'Israël. Mais si vous vous détournez de moi, vous et vos enfants, si vous cessez de me suivre et de garder mes préceptes et les cérémonies que je vous ai prescrites, et que vous alliez servir et adorer les dieux étrangers, j'enlèverai Israël de la surface de la terre que je leur ai donnée, je rejetterai loin de moi ce temple que j'ai consacré à mon nom, et Israël deviendra le proverbe et la fable de tous les peuples. » L'avertissement est clair. Évidemment, il ne faut pas prendre certains termes comme « à jamais » de manière stricte. Il y a toujours des conditions au royaume humain. D'ailleurs, il y avait une prophétie plus ancienne que celle-ci dans la bénédiction de Judas, donc l'ancêtre de David. Le sceptre ne sortira pas de Judas, jusqu'à ce que vienne celui qui doit venir, donc le Messie. Par conséquent, il était déjà prévu, connu par Dieu, que le sceptre sortirait de Judas, arriverait dans les mains d'un Iduméen, c'est-à-dire Hérode, et à ce moment-là, ce serait l'avènement du Messie de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais en même temps, la promesse tient parfaitement puisque, comme je vous le rappelais la semaine dernière, le royaume du Messie, Regnum Eius, Regnum Eternum, le royaume de notre Seigneur Jésus-Christ est un royaume éternel, et le royaume éternel est celui qu'il fonde, c'est bien sûr le royaume de l'Église, qui durera jusqu'à la fin des temps et au-delà, bien sûr, dans la gloire. La nouvelle Israël, le nouveau peuple d'Abraham, comme le dit également saint Paul. Donc prospérité, rayonnement, avertissement. Le roi Salomon va faire beaucoup d'alliances avec les peuples étrangers pour être dans la paix, comme l'indique d'ailleurs son nom, Salomon, qui vient du mot paix en hébreu, et d'abord avec les Égyptiens, puis avec les autres peuples, et à cette période, on faisait la paix de manière diplomatique en faisant des alliances. Ce qui fait que, au bout du compte, nous dit la Sainte Écriture, le roi Salomon avait 700 épouses, et 300 concubines. Alors, comme d'habitude, les chiffres de la Sainte Écriture sont peut-être un tantinet exagérés, mais l'ordre de grandeur, certainement, était très important. Contrairement, d'ailleurs, à ce qu'avait dit Dieu dans le Deutéronome, qu'il ne multiplie pas les femmes de peur que son cœur ne se détourne. Contrairement à ce qui est dit aussi dans les livres de sagesse, dont certains sont attribués à Salomon, à tort, puisque pratiquement tous les livres de sagesse sont attribués à Salomon, on doit lui attribuer certainement le livre des Proverbes, mais d'autres on peut détecter qu'ils sont écrits après. Mais attention, même s'ils sont rédigés après, ça ne veut pas dire que le fond ne viendrait pas d'une sagesse transmise aussi de façon orale par Salomon. En tout cas, il est dit que le vin et les femmes font apostasier même le sage. Soit dit en passant, mais c'est ce qui va se produire, malheureusement. Ces alliances, elles favorisent la paix, effectivement. Elles étaient autorisées par Dieu à contre-cœur. Hein, notre Seigneur Jésus-Christ le rappelle dans les évangiles, nous rappelle de façon extrêmement claire l'unité du mariage, un seul homme et une seule femme, et dit explicitement que cette permission de la polygamie, non seulement on en voit les conséquences mauvaises, mais elle était permise à cause de la dureté de leur cœur. Et donc, on ne peut pas arguer de ces réalités, malheureusement, de l'Ancien Testament, pour rétablir ce genre de choses, comme on le voit dans une fausse religion comme l'islam. Donc, mes bien chers frères, avec ces femmes étrangères viennent les dieux étrangers. Les dieux étrangers contre lesquels le Seigneur avait prévenu Salomon. Attention, n'introduisez pas de dieux étrangers. Que fait Salomon? Eh bien, pour faire plaisir à ces femmes étrangères qui viennent avec toute leur suite, pour qu'ils puissent adorer leur propre dieu, on pratique à cette époque-là le dialogue interreligieux. Et qu'est-ce qu'on fait? On fabrique des temples à Astarté, des temples à Camos, des temples à Milcom, à Baal et à tous ces faux dieux, chacun apportant son propre faux dieu. Que se passe-t-il? La sentence est immédiate. Le Seigneur dit à Salomon: parce que vous avez agi ainsi et que vous n'avez point gardé mon alliance ni les commandements que je vous avais faits, je déchirerai et diviserai votre royaume et je le donnerai à l'un de vos serviteurs. Néanmoins, je ne le ferai pas pendant votre vie à cause de David votre père, c'est de la main de votre fils que je ferai cette division. Et c'est ce qui se passe sous le règne donc du successeur de Salomon. Il y a le grand schisme des 10 tribus d'Israël. Voilà donc, mes bien chers frères, un avertissement. Après nous avoir montré la sagesse de Salomon qui vient de Dieu, nous voyons que cette sagesse peut être perdue. Peut-être perdu parce que mal utilisé, parce que il a glissé de la sagesse surnaturelle à une sagesse humaine. Cette prudence humaine qui consiste à essayer d'avoir des alliances avec les peuples étrangers en dehors de Dieu. Faire plus confiance à des alliances humaines qu'à l'alliance avec Dieu, avec le Seigneur. Laissez faire, laissez adorer de faux dieux. Le roi Salomon n'adore pas de faux dieux, il n'adore que le vrai Dieu. Mais il laisse adorer ces faux dieux, et même pire, puisque il laisse construire des temples dans son royaume qui est censé être le royaume de Dieu. Donc là, il y a également un avertissement aux partisans du dialogue interreligieux, n'est-ce pas, à ces partisans de ce dialogue qui consiste à dire, comme le disait Monsieur Bergoglio, n'est-ce pas, Jésus, oui, c'est un prophète, un homme extraordinaire, comme Bouddha, comme le faux prophète Mahomet, etc. Il a osé faire cela, mettre sur le même plan notre Seigneur Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme, notre Sauveur. Il a osé le mettre sur le même plan que des faux prophètes. Et bien entendu, ses prédécesseurs, que ce soit Ratzinger, que ce soit Wojtyla, avec leurs réunions interreligieuses, tout cela s'est renouvelé, bien entendu, le péché de Salomon et invité les faux dieux à la table de l'Église, ce qui est un sacrilège extrêmement grave. Donc on comprend le côté infructueux, bien sûr, de cette Église dirigée par ces modernistes. Vous reconnaîtrez l'arbre à ses fruits. Et l'arbre il finira nécessairement par être coupé. Le sort du roi Salomon. Contrairement à ses deux prédécesseurs, le sort du roi Saül, malheureusement, il fait peu de doute, n'est-ce pas, avec sa consultation, sa nécromancie, avec son suicide, avec donc tous ces nombreux péchés. On peut difficilement penser à une conversion. Au contraire, le roi David, comme je vous l'ai dit, dans l'autre sens, on le considère comme saint. Sur Salomon, la Sainte Écriture nous parle de sa mort de façon très laconique, sans nous parler d'une quelconque conversion, en laissant la porte ouverte à une conversion, à un regret. C'est important de le noter malgré tout, parce que ça rend Salomon encore plus proche de chacun de nous. Plus proche de chacun de nous par l'exemple qu'il nous donne. Ce que nous devons estimer, demander, garder en premier lieu, c'est la sagesse, ce sont les vertus, et c'est surtout ce qu'il y a derrière cette sagesse et ses vertus surnaturelles, à savoir la grâce sanctifiante, la grâce de Dieu, qui est le don le plus important que nous devons estimer par-dessus toute chose et que nous devons demander principalement dans nos prières. Le roi Salomon est un exemple pour ça. Il est un exemple, un mauvais exemple pour le coup, mais donc un exemple qui nous permet, qui nous avertit. La sagesse, la grâce sanctifiante, les dons de Dieu, il faut les reconnaître, mais il faut aussi les conserver précieusement. Il n'est pas nécessaire d'attendre que Dieu nous apparaisse, en songe ou pas. Dieu, il nous a avertis à travers justement ces cas particuliers, le cas de Salomon, mais bien d'autres. Il nous a avertis que si nous sommes fidèles, lui, il est fidèle. Si nous sommes fidèles à ses commandements, si nous sommes fidèles à sa grâce, eh bien lui aussi nous reste fidèle. Au contraire, si nous ne sommes pas suffisamment vigilants, si nous nous compromettons comme l'a fait le roi Salomon avec le monde, avec ses alliances étrangères, et c'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles la Sainte Église recommande de faire extrêmement attention au mariage, au mariage mixte, au mariage avec des personnes qui n'ont pas la foi catholique ou la foi catholique intègre aujourd'hui. Cela pose problème. Ce n'est pas pour rien que l'Église a toujours averti sur ces alliances. Parce que le principal amour, ça doit être l'amour de Dieu et donc pas l'amour sentimental. On ne doit pas se laisser dominer par ses sentiments. On ne peut pas faire n'importe quoi dans cet ordre parce que, eh bien, les femmes font apostasier même le sage. Ça vaut aussi, bien entendu, dans l'autre sens, hein, cette passion. Là, pour le coup, le roi Salomon, c'est plus du calcul humain que de la passion, certes. Mais l'avertissement, il reste là. De même, les calculs humains par rapport à notre vie chrétienne, combien de fois nous cédons à ces calculs humains? Où avons-nous cédé à ces calculs humains? Préférer ces calculs humains à l'assistance à la messe le dimanche, préférer la paix, soi-disant, dans la famille, en taisant notre vie chrétienne. Tout cela, ce sont des compromissions qui entament notre alliance avec le Seigneur et qui peuvent causer, bien entendu, du tort à notre âme, et un tort qui peut être extrêmement grave et qui cause du tort aussi aux autres, parce que malheureusement, Combien même de juifs à cette époque d'israélites ont pu tomber dans ces cultes mauvais? On le verra plus tard avec le cas des Samaritains. Les Samaritains, il y a encore d'autres raisons, mais certainement, ce mélange de religions n'est pas une bonne chose. Donc, nous devons faire attention à cela et nous garder de ces compromissions avec le monde. Ce sont des compromissions spirituelles, ce sont des compromissions intellectuelles, ce sont des compromissions morales. Chacun doit examiner sa conscience. Il ne s'agit pas nécessairement du fait que vous mettiez des Bouddhas ou autres statues peu chrétiennes chez vous. Alors, si vous en avez, achetez une masse et faites une œuvre salutaire pour votre âme. Parce que ce sont des signes qu'on ne peut pas admettre chez nous, dans nos maisons chrétiennes. Mais sans aller jusque-là, ce sont toutes nos petites compromissions de tous les jours avec le monde. Il faut y faire attention, il faut y veiller, parce que cela nous éloigne, même si dans de nombreux cas c'est véniel, cela nous éloigne de la sagesse, cela nous éloigne de la grâce de Dieu. Oui, bien chers frères, un exemple plus particulier, différent des autres. Tout le monde connaît la grandeur de Salomon. Notre Seigneur Jésus-Christ y fait référence. Eh bien, prenons aussi des leçons de cette vie de Salomon. Leçon, une fois de plus, je le répète, d'estimer par-dessus tout les biens divins, les biens surnaturels, notamment l'agir surnaturel, cette prudence surnaturelle, et surtout veiller à garder ces dons surnaturels. Toute notre vie, nous devrons lutter, nous devrons être vigilants pour ne pas nous laisser entraîner d'une manière ou d'une autre par des dieux étrangers, par des idoles, quelles qu'elles soient, pas nécessairement des faux dieux d'autres religions, mais nos propres idoles. L'idole de notre propre volonté, en premier lieu, comme on le voit chez le roi Saül, et puis toutes les idoles humaines aussi qui sont présentées aujourd'hui. Nous devons nous en garder et rester fidèles à notre Seigneur Jésus-Christ tout au cours de notre vie. Et là, notre royaume spirituel sera établi effectivement pour l'éternité. Tant que nous sommes ici-bas, nous sommes dans cette instabilité. Le bon Dieu nous donne les grâces pour passer à travers ces vicissitudes du monde, mais c'est à nous de garder ces grâces, c'est à nous de les faire fructifier, c'est à nous de les demander en permanence, et c'est à nous de rester au quotidien fidèles à ces grâces, d'écouter les avertissements de Dieu et de nous laisser convertir, de revenir à Dieu si par malheur nous nous serions éloignés de Dieu dans telle ou telle idole. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.